Et nous allons retrouver ensemble Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Ça fait déjà un mois qu'on n'a pas été dans ce chapitre. Et donc nous allons nous focaliser sur la vérité qui nous est présentée au verset 5. Mais je vais lire à partir du verset 1 pour qu'on aille un peu mieux, pour qu'on ait, pardon, un peu mieux le contexte. Moïse, j'espère que vous connaissez un peu qui c'est, il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Très important de noter le lieu où il se trouve. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Nous avons ce personnage très intéressant. Il est appelé l'ange de l'Éternel ou l'envoyé de l'Éternel, comme si c'était quelqu'un distinct de l'Éternel. Mais quelques versets plus tard, il est appelé lui-même l'Éternel et Dieu. Et avec toute la lumière que nous avons du Nouveau Testament pour le faire éclairer ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, nous savons que Dieu a envoyé son Fils. Il fut son messager par excellence. Et comme nous avons dit dans nos versets de mémorisation, la parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Et donc nous avons ici vraisemblablement une apparition avant son incarnation, mais de ce messager par excellence, Dieu le Fils. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Peut-être vous vous souvenez que plus tard, sur le mont de Transfiguration, Moïse viendra à la rencontre du Fils de Dieu, mais ici c'est le Fils de Dieu qui vient à la rencontre de Moïse et lui parle. Et il répond, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le thème de ce livre d'Exode, nous l'avons déjà considéré, c'est le Dieu qui délivre son peuple, c'est la première moitié du livre, afin de demeurer avec lui, avec le peuple de Dieu. Ah, c'est la deuxième partie du livre. Et c'est un livre qui termine en fait avec 15 chapitres dédiés à la construction du tabernacle. Quand on pense à Exode, on ne pense pas tout de suite au tabernacle, mais vraiment, presque la majorité de ce livre nous parle de ce tabernacle où Dieu allait habiter parmi son peuple. Mais je crois que tout commence ici, avec la rencontre de Dieu et de son peuple. Dieu contrôlait déjà tous les détails, jusque depuis le début de l'histoire, en Exode. Mais c'est ici que Dieu entre en contact avec son peuple, qu'il entre et qu'il dit, maintenant, c'est maintenant que je vais vous délivrer. Et il le fait parce qu'il cherche des adorateurs. Dieu les sauve pas pour les abandonner plus tard dans le désert. Il cherche, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche des adorateurs. Et c'est pour ça qu'il délivre un peuple, pour qu'il puisse l'adorer. Et la première chose que Dieu accentue pour Moïse, et à travers ce récit pour tout le peuple de Dieu dans toutes les générations, et que nous adorons un Dieu saint. Et c'est pour ça que j'ai pris comme titre « Adorer le Dieu saint dans un lieu saint ». Et notez premièrement le fait que Dieu est souverainement saint. C'est la première chose qu'on veut considérer dans ce passage. Dieu est souverainement saint. Et il n'y a vraiment aucune raison de douter la signification d'un buisson qui brûle. Il suffit de laisser Dieu lui-même l'interpréter. Écoutez-le parler. C'est une image visuelle, le buisson ardent, mais qui est par la suite interprétée par Dieu dans les paroles de Dieu. Nous allons trouver la clé de l'interprétation de ce phénomène. Regardez verset 4. « Dieu vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et Dieu dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Et Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Imaginons un peu ce qui se passe. D'abord, Dieu l'appelle avec cette répétition d'affection. « Moïse ! Moïse !» Et puis dès que Moïse commence à s'approcher, Dieu lui dit « Stop ! N'approche pas plus que cela. Ôte tes souliers de tes pieds. » Et cette révélation avec Dieu, de Dieu, va façonner la relation qu'aura Moïse avec Dieu et qu'aura le peuple de Dieu avec Dieu. Qu'avons-nous aussi avec Dieu ? Et il y a ici une caractéristique essentielle à Dieu. C'est laquelle ? Eh bien, Dieu attire l'attention de Moïse sur ce fait quand il dit « Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et la première chose, je pense, que le Saint-Esprit veut que nous apprenions de cela, c'est que Dieu lui-même est souverainement saint. Quelques-uns de vous connaissent l'histoire d'Ésaïe, ne cherchez pas, mais c'est en Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il va voir Dieu très élevé, et les anges vont crier « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Mais vous rappelez de la description à la fin du verset 1 et comment est soulignée l'exaltation de Dieu. Ce qui est décrit, ce n'est pas le trône sur lequel Dieu se trouve, ce n'est même pas la robe dans laquelle il est vêtu, c'est simplement le pan de sa robe, ou le bord inférieur de son vêtement. Et la description nous dit que le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. C'est la partie la plus basse de la robe. Et la description s'arrête au pan. Les pans, que le bord remplissait le temple. Et il ne nous dit pas plus. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature une litote. Une litote, c'est une figure de rhétorique qui consiste à dire moins pour laisser entendre beaucoup plus. C'est comme maman dit, je ne suis vraiment pas contente. Ça veut dire probablement beaucoup plus qu'elle manque de joie dans sa vie. Et Dieu aurait pu dire ici à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds car je suis saint. Il aurait pu dire ça. Mais de lui dire que la terre même est sainte souligne encore plus la sainteté de Dieu lui-même. Il faut simplement poser la question, mais pourquoi cette terre est sainte? Il est là, il a peut-être déjà passé des semaines dans cet endroit, sans voir rien. Pourquoi maintenant cette terre devient une terre sainte? Et la réponse est évidente, la terre est sainte grâce au fait que Dieu lui-même est présent et il est saint. Vous voyez, c'est la différence que si je vous disais « moi, je suis saint » et de dire, vous dire, vous savez, tout ce que je touche devient saint. Vous voulez que vous soyez saint? Je vais vous toucher. Vous voulez un portable saint? Donnez-le-moi, je vais toucher votre... Tout ce que je touche, même la terre, ôtez-vous, souliers, même la terre où je marche devient une terre sainte. Vous voyez combien ça souligne encore plus la sainteté de Dieu. Il est tellement saint que la poussière, au lieu de le salir, la poussière elle-même devient sainte. Comme Jésus, lorsqu'il touchait un lâtre, quelqu'un d'impur, ne devenait pas lui-même impur, mais la personne elle-même devenait plutôt pur comme Jésus. Et si la poussière même autour du buisson est déclarée sainte. Et de plus, vous voyez que Moïse ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. Et on pourrait dire, mais Dieu envoie des signes contradictoires ici. Il dit d'abord, Moïse, Moïse, comme s'il l'appelle à lui, et puis il dit, arrête, n'approche pas. Il y a ce double message de venir à Dieu, mais de ne pas venir n'importe comment. Il doit garder sa limite du buisson. N'approche pas d'ici, lui dit Dieu. Et toute la conversation qui suit dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, parce que Moïse va quand même répondre plusieurs fois à Dieu, se trouve à quand même une certaine distance entre les deux. Il doit même dans sa tenue vestimentaire, sa façon de regarder le buisson, reconnaître la sainteté de Dieu. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais ce n'est pas unique à ce passage. Ce n'est pas qu'ici que nous voyons cela. Rappelez-vous, comme je viens de dire tout à l'heure, que la deuxième moitié d'Exode nous parle de la construction du tabernacle. Et je vais dire un peu plus juste tout à l'heure, mais même le tabernacle avait ce double message. Dieu habite parmi nous, mais on ne peut pas l'approcher n'importe comment. Nous sommes êtres à la fois attirés et repoussés. Dieu nous appelle par notre nom et puis nous dit d'attendre et de faire attention. Et nous avertit que la terre même que nous utilisons pour nous approcher de lui est une terre sainte. Et la deuxième chose, il faut noter, c'est que là où Dieu rencontre l'homme est un lieu saint. Il dit, même la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Et je crois qu'il y a une réalité fondamentale qui est révélée dans ce passage, qu'il faut qu'on saisisse. Ça concerne notre relation avec Dieu, pour nous tous. Et c'est la suivante, c'est que Dieu rencontre toujours l'homme sur une terre sainte. Ou on peut le dire comme ceci, Dieu rencontre toujours l'homme dans un lieu saint. Toujours. Nous rencontrons pour la première fois l'idée, cette notion de lieu saint dans les premiers chapitres de la Bible. Il y a un jardin qui est appelé Éden, qui veut dire délice. Et c'est là que Dieu se promenait. Vous rappelez, la nuit, il y avait la communion avec sa création, Adam et Ève. Et qu'est-ce qui se passe? Sans le regarder, vous savez, qu'est-ce qui se passe lorsque l'humanité pêche contre Dieu? Non seulement la relation entre Dieu est rompue, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont chassés de ce lieu saint. Ils sont expulsés du jardin. Et si on devait sauter jusqu'aux toutes dernières pages de la Bible, nous allons découvrir que Dieu restaure ce lieu saint. En fait, tout comme le lieu du tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint, le saint des saints, c'était dans la forme d'un cube. Hein, toutes les mesures en haut, largeur et épaisseur étaient pareilles. Et la description de la ville en Apocalypse est d'un cube parfait. Pour nous faire penser à ce lieu très saint du temple. Et Dieu donc habite de nouveau avec son peuple comme il faisait avant la chute. Et c'est pourquoi cette ville est appelée même la ville sainte. Vous voyez, nous allons dans la Bible, les premières pages, nous avons un lieu saint, c'est le jardin. Et à la fin, nous avons un lieu saint, c'est la ville sainte. Dieu restaure tout. Mais maintenant, nous vivons entre les deux, n'est-ce pas? Entre le jardin saint et la ville sainte. Et ce que nous découvrons, c'est que si l'humanité est bannie du jardin saint, Dieu n'est pas banni de la terre. Il vient toujours à l'homme, même à l'homme pécheur. Mais il le rencontre toujours dans un lieu saint. Ce n'est pas que Dieu va chercher un terrain saint et dit « Ah, on va se rencontrer là parce que ce terrain est déjà saint ». Non, c'est que le fait même que Dieu vient sanctifie ce lieu, le rend saint, et le rend différent, et le rend à part. C'est sa présence qui la rend sainte. Et donc même avant le temps de Moïse, nous avons Noé qui va construire un autel là où Dieu l'avait rencontré, là où il avait fait alliance avec lui. Abraham et Jacob font de même et ils appellent même ce lieu Bethel, qui veut dire la maison de Dieu, parce que c'est dans cet endroit que Dieu les a rencontrés. Mais ici en Exode, on trouve la terre sainte. Où sommes-nous ici, dans cette rencontre entre Dieu et Moïse? Le texte est très explicite quant à la localisation du lieu. Regardez le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau du Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et puis regardez verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu où? Ici sur cette montagne. Ils sont à cette montagne, qui sera appelée plus tard la montagne sainte. Et donc à cet instant même, exactement à cet endroit, plus tard, la nation reviendra, c'est dans ce même livre, plus tard. Et en fait, à partir d'Exode 9 et jusqu'à la fin du livre, chapitre 40, ils vont être dans ce lieu, ce même lieu où Moïse se trouve actuellement, dans notre texte. Depuis 19 jusqu'à la fin, ils vont se retrouver ici au même lieu. Et donc, il ne faut pas penser à ce buisson ardent comme étant juste perdu quelque part dans le désert. Non, c'était à la montagne de Dieu. Et c'est ici que Dieu fera alliance avec le peuple. C'est ici que Dieu va leur donner les 10 commandements. Et c'est ici où ils vont construire et puis établir et construire pour la première fois le tabernacle. Et alors qu'ici, pour Moïse seul, le buisson est amené à brûler par la main de Dieu, vous savez que plus tard, lorsque toute la nation revient au même endroit, ce n'est pas le buisson, mais c'est toute la montagne qui se met à brûler. Et Hébreux 12, 18 dit que le peuple de Dieu se trouvait dans cette montagne qui était embrasée par le feu. Alors imaginez ça, c'est pas un buisson maintenant, c'est toute une montagne. Vous avez vu ces photos de ces feux de forêt qui ravagent. On a eu cet été dans le sud de la France, dans les Landes, etc. Et là, il y a tout ça autour de cette montagne. Et donc, ce qu'il fait pour Moïse en tant qu'individu, il va refaire au même endroit pour toute la nation. Ce buisson, donc, se trouve dans un lieu très important et central à la révélation de Dieu à l'homme. Et puis, plus tard, la situation va changer. Moïse ne va plus monter sur la montagne pour être avec Dieu dans une gloire indestructible, indescriptible. Il va redescendre, on va construire ce tabernacle. Ça sera dans un sens le ciel sur terre. Dieu va demeurer parmi son peuple. Et ici, en Exode, une tente sera construite pour le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est créé pour ça. Et il y aura un lieu saint, et vous savez que ce lieu saint donne accès, après, qu'est-ce qui est derrière? À un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Et c'est là où Dieu rencontrera son peuple. Exode 25, 22 dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placé sur l'arche du témoignage. » C'est là, dans ce lieu saint, très saint, où Dieu va se rencontrer avec son peuple. Choisis toujours un lieu saint. Alors, où Dieu rencontre-t-il l'humanité? Dans un lieu très saint. C'est ce que Dieu a fait dans le jardin, jusqu'à ce que l'homme l'a profané, il a dû être expulsé. Et dans le tabernacle, Dieu, dans un sens, recrée une petite partie de cela, mais il doit créer des limites, il doit créer des barrières pour empêcher aux hommes de profaner le lieu saint de contact entre Dieu et l'homme. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Qu'ont fait les deux neveux de Moïse lui-même? Ils ont profané leur sainte fonction de prêtre. Ils ont profané le saint sacrifice. Ils ont profané le saint lieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a tués sur le coup. Et si vous lisez attentivement le texte, vous verrez que c'est en fait en réponse à leur péché de profanation de ces deux fils de Aaron que Dieu va limiter encore plus l'accès maintenant à ce lieu très saint. Après ça, il va dire, ok, maintenant, c'est une personne, une fois par an, et pas plus. Parce que le lieu doit rester saint. Dans ce lieu très saint, il devait passer une sorte de boîte, on appelle ça une arche, l'arche de l'Alliance. Et des centaines d'années plus tard, il y a l'histoire de 70 hommes qui tentent d'ouvrir le couvercle et de regarder dans l'arche. Et vous savez ce que Dieu fait? Il les tue tous. Et quelques années après ça, on est en train de transporter cette arche à Jérusalem et il y a un homme qui veut bien aider, Uzza, il essaye d'empêcher que l'arche tombe et frappe la terre et Dieu le tue sur le coup. C'est comme si Dieu dit « la terre est plus sainte que tes mains ». À une autre époque, un roi essaye d'entrer dans le lieu saint de Dieu et Dieu le frappe de lèpre. Alors personne ce matin ne devrait douter que Dieu a l'intention de faire du lieu de rencontre entre Dieu et les hommes un lieu saint. Et donc Dieu appelle Moïse. 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 Et puis Dieu lui dit, quand tu viens en ma présence, tu viens à un lieu très saint. Enlève tes chaussures. Tu es dans le saint des saints. Parce que moi, je suis là. Même le sol sur lequel tu te tiens est maintenant, grâce à ma présence, pour te rencontrer une terre sainte. Et ce qu'on découvre en lisant la Bible du début à la fin, c'est que l'homme n'a pas seulement profané le jardin d'Éden, mais l'homme a souillé, il a profané, il a détruit tous les lieux où Dieu, que Dieu a mis en place pour rencontrer l'homme. Partout. Et pour vous montrer cela, je veux que vous trouviez Jean chapitre 2, un texte qui nous a été lu pendant la première partie. Mais dans vos Bibles, l'évangile de Jean, c'est le quatrième évangile, le deuxième chapitre, et verset 13. Jean 2, 13, écoutez la parole de Dieu. « La Pâque des Juifs était proche. » Et Jésus monta à Jérusalem. Il se trouve où, verset 14? Dans le temple qui a remplacé le tabernacle, qui est censé être le lieu saint, le lieu très saint, où l'homme vient pour rencontrer Dieu. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, et ayant fait un fouet avec des cordes, comme nous avons tout à l'heure. C'est lui-même qui fabrique ce fouet. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici !» Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous vous souvenez que je vous ai dit que l'homme a continuellement souillé et profané le lieu saint de rencontre entre Dieu et l'homme. Et voilà qu'il recommence. Ils refont la même chose. Au sein même du temple, ils en font un lieu de commerce. Et beaucoup sont même les pasteurs, malheureusement, de nos jours, qui se servent de leur église comme un lieu de commerce pour se faire riche. Je vous assure que Dieu ne reste pas indifférent. Mais remarquez ce que frappent les disciples. Notez ce que frappent les disciples. Il le dit là au verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Il pense un passage biblique. Le zèle de ta maison me dévore. Alors, personne ici ne doit douter que Dieu le Père, ni Dieu le Fils, a l'intention de faire du lieu de rencontre entre Dieu et les hommes un lieu banal, un lieu de trafic. Ils veulent tous les deux garder ce lieu saint. Notez ce que disent les Juifs au verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus leur répondit: « Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ici, verset 19 ? Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et quand Jésus dit « détruisez ce temple », tout de suite quand il dit « temple », eux, ils regardent autour d'eux. Ils regardent au mur, ils regardent à ce bâtiment splendide. Et ils disent, verset 20, « il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais Jésus, quand il a dit « temple », ne regardait pas autour de lui. Parce que le verset 21 nous dit que Jésus, quand il a dit « temple », il parlait du temple de son corps. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire? Jésus est en lui-même, par excellence, le temple. Il est par excellence le tabernacle. Il est par excellence ce lieu saint où Dieu vient en contact avec les hommes. Vous pouvez tourner une page en arrière, Jean 1, verset 14, dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On pourrait traduire la parole à tabernaclé parmi nous parce que c'est le verbe du nom tabernacle qui est utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. La parole vient et elle vient comme un tabernacle pour tabernacler. C'est comme si Dieu dit « Ok, je reviens, je vais encore construire ma tente au milieu de vous. Mon tabernacle là au sein de ce peuple. » Et il le fait en envoyant Jésus. Il est le temple. Il est le tabernacle. Il a tabernaclé parmi nous. Jésus a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est qu'en moi, moi le temple, moi le tabernacle, que vous pouvez avoir accès au Père. Mais qu'en fait les hommes avec le tabernacle, ce temple par excellence, avec ce médiateur entre Dieu et les hommes? Ils ont fait exactement ce que Dieu avait prédit. Ils l'ont détruit. Le seul lieu dans l'univers où l'homme peut rencontrer Dieu. Et que fait l'homme? Il le crucifie. Et Jean, pour revenir au verset chapitre 2, regardez verset 19. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et 3 jours, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors vous pouvez penser à Dieu, à Jésus, comme ce lieu très saint. Et rappelez-vous que lorsque Jésus est mort, le voile qui empêchait l'accès au lieu très saint a été déchiré du haut en bas pour que ça soit clair que ce n'était pas l'homme qui était en train de pénétrer et de désacrer le lieu très saint. Mais c'était Dieu qui ouvrait en fait l'accès aux pécheurs. Ce n'est pas la profanation donc du lieu saint par les hommes, mais l'ouverture du Dieu, du lieu très saint pour, par la main de Dieu lui-même. Et donc, si vous voulez venir à Dieu, il faut venir au lieu qu'il a choisi d'entre tous les autres lieux possibles sur la face de cette terre. Ce lieu, c'est son Fils bien-aimé. Un troisième texte auquel je veux vous demander de trouver dans vos Bibles, c'est Hébreux 12. Nous avons considéré un peu il y a un mois, mais le contraste ici est frappant. Hébreux 12, verset 18. Dieu parle aux croyants comme nous. Okay? Il parle aux Hébreux surtout, des Juifs qui sont venus à Christ. Et à cause de cela, ils ne vont plus au temple. Et pour quelques-uns, ça les gêne. On ne va plus au temple. On n'offre plus de sacrifices. C'est quand même là le lieu où on va rencontrer Dieu, non? Ils ne savaient pas que quelques années après cela, le temple allait être détruit et jusqu'à notre jour n'est pas encore reconstruit. Et donc le Saint-Esprit leur dit ceci en Hébreux 12, verset 18. Regardez là. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Et vous voyez tout de suite qu'il parle de ce temps lorsque Moïse se trouve non devant le buisson ardent, mais devant la montagne ardente. Et il dit, pour vous, j'avoue, ce n'est pas votre expérience. Ça, c'était l'expérience de Moïse. Il avait peur, la Bible nous dit en Exode 3, il avait peur quand il avait vu le buisson ardent. Mais notez sa réaction quand il a vu la montagne embrasée par le feu. Regardez Hébreux 12, 21. « Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Il a vraiment peur. Mais il dit, « Vous, vous n'êtes pas approché de cela. » La plupart ici n'ont jamais visité même Israël. Mais, verset 22, vous êtes approchés de la montagne. Et notez bien que le Saint-Esprit se sert du même vocable de lieu. Hein? Il dit que nous, nous sommes rapprochés, tout comme eux, ils se sont approchés. C'est le même verbe. Vous êtes approchés, comme eux, ils se sont approchés. Et puis, il dit, nous sommes approchés d'une montagne même, tout comme eux. Donc, on a le même vocable de lieu. On s'approche d'une montagne. Il faut toujours penser dans la catégorie ici de lieu. C'est un lieu, c'est un endroit, c'est une montagne, c'est une cité, mais ce n'est pas le même lieu. Et en lisant ces versets, contrastez-le dans votre tête avec quelqu'un qui, imaginez hein, que c'était possible, qui pouvaient pénétrer dans le temple et voir les prêtres en train d'accomplir leurs fonctions et puis les chérubins dans le lieu très saint au-dessus de l'arche. Hébreux 12, 22, regardez-le. Vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et au lieu de ces chérubins en or hein, au-dessus de l'arche, vous, vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, ça parle des anges. Et au lieu d'un portier qui gardait l'entrée du temple, vous, vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Et à la place des prêtres, vous, vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Et puis quand nous pénétrons dans le lieu très saint, nous trouvons non pas Aaron, qui était jusqu'à sa mort le médiateur de l'ancienne alliance, mais nous trouvons quoi au verset 24? Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et au lieu de trouver le sang des boucs sacrifié, aspergé sur le couvercle de cette arche, comme il devait le faire, nous trouvons le sang de l'aspersion qui parle mieux même que celui d'Abel. Ça parle du sang de Jésus-Christ. Alors comprenez bien, ce n'est pas un lieu géographique. Vous n'allez pas le trouver sur votre GPS, mais c'est un lieu réel. Et si Dieu, si Jésus peut être réellement le chemin qui mène à Dieu, il peut être réellement le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il peut être réellement le temple par excellence. Et Jésus-Christ, ce temple, rejeté parmi les hommes, rappelez, mais choisi par Dieu, il est lui-même très saint. Très saint. Et puisqu'il est un souverain sacrificateur qui peut nous laver, nous purifier de nos péchés, nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes. Quelle grâce! Et je vous invite à le faire. Mais vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Rappelons-nous que Jésus a laissé partir le jeune homme riche parce qu'il avait choisi ses richesses à la place de Jésus-Christ. Et donc, troisièmement, ici, le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes façonne même notre adoration. Tout comme Moïse, il a dû changer, il a dû ôter ses souliers. Ce n'est pas toujours dans la suite de la Bible que nous lisons cela, mais une manière de marquer son respect pour Dieu. Et dans l'adoration, nous nous approchons d'abord d'un lieu réel, comme dit Hébreux 12, mais nous approchons en esprit. Gardons cela à l'esprit. Jean 4, 23, Jésus dit, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, comment ? En esprit et en vérité. » Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En esprit. Ça ne parle pas du Saint-Esprit ici. Ça ne parle même pas de la sincérité. Dieu voulait toujours, même dans l'Ancien Testament, que les gens adorent Dieu avec sincérité de tout leur cœur. Mais même sous l'Ancienne Alliance, il fallait adorer Dieu dans un certain endroit. Et Jésus ici, il donne deux éléments non négociables concernant ces deux questions. Vous rappelez, la dame posait la question « Où est-ce qu'il faut adorer et comment est-ce qu'il faut adorer ?» Et à la question « Où est-ce qu'il faut adorer ?» le « Où ?» la géographie de ce lieu, c'est en esprit, c'est-à-dire c'est dans l'homme. La géographie physique ne sera plus un problème. Maintenant, le culte doit se faire en esprit, dans l'esprit des hommes. Donc, on peut le faire dehors, hein, ce serait difficile aujourd'hui avec la pluie. Il y en a beaucoup qui le font dehors, dans une maison, souterrain. C'est pour ça que nous ne cherchons pas à faire un pèlerinage. Il n'y a pas dans notre pensée un endroit dans ce monde qui est physiquement plus saint qu'un autre. Non, quand nous approchons de ce lieu réel, c'est en esprit que nous nous approchons. Mais nous nous approchons en esprit d'un Dieu qui est lui-même sur un trône, le trône de la grâce. Et donc, lettre B ici, dans l'adoration, nous devons nous imprégner des réalités qui nous entourent. C'est là qu'il a façonné notre pensée. Regardez le texte là, verset 22, Hébreux 12, 22. « Nous nous approchons en esprit de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Nous nous approchons en esprit des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous nous approchons en esprit du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection. Nous nous approchons en esprit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Et l'accent est mis dans le passage, ici en Hébreux 12, 18 à 29, sur la nécessité même d'être submergé par la réalité de l'endroit où nous nous trouvons d'une manière spirituelle lorsque nous célébrons le culte. C'est cela qui prime par-dessus tout. C'est comme si le Saint-Esprit nous dit, quand vous préparez un culte, pensez aux anges. Ce n'est pas notre réaction première. Mais vous adorez devant les anges. Vous savez, Éphésiens 3 parle des anges qui regardent l'Église pour voir la gloire de Christ. 1 Corinthiens 11 dit aux femmes de porter un voile dans l'adoration à cause des anges. On nous dit on va faire un culte dans la cité. Et le Saint-Esprit nous dit vous allez faire un culte devant les remparts de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous voyez, dans l'adoration et même dans notre culte, nous devons nous imprégner des réalités spirituelles qui nous entoure. C'est ça qui doit primer par-dessus tout. Et puis l'être C, dans l'adoration, nous devons prendre garde à bien écouter le Fils qui nous parle. N'est-ce pas curieux, mais tellement important, que la première chose qu'il faut faire lorsque nous nous approchons en esprit pour adorer notre Dieu, c'est quoi? Regardez le verset 25. Gardez-vous de refuser de faire quoi? D'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous pensons à l'adoration, à la louange, comme le fait de parler à Dieu. Nous disons même qu'il y a, au culte, il y a l'adoration et puis il y a le serment. Mais Dieu dit que quand nous nous approchons de Dieu en esprit pour l'adorer, ben gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. L'Esprit nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Un auteur a dit, je cite, « Être dans la présence de Dieu est un privilège qui devrait nous submerger et créer en nous un sentiment de prudence et de soumission révérencieuse. » Cela parle d'exercer une retenue personnelle, ici il parle d'Ecclésiaste 5. Comme Moïse a retiré ses chaussures devant le buisson ardent et Josué les siennes devant le capitaine de l'armée du Seigneur, chaque adorateur doit reconnaître que le lieu de culte est un lieu saint. Alors que nous devenons de plus en plus conscients que le culte biblique nous fait entrer dans la sainte présence de Dieu, nous devons être de plus en plus attentifs à ne rien faire qui puisse offenser cette sainte puissance. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais changé. Et si vous avez un doute, regardez la dernière phrase de ce chapitre 12. Mais adorer Dieu, c'est en grande partie écouter ce qu'il a à nous dire. C'est lui donner la parole pour qu'il nous parle. C'est ce qui s'est passé devant la montagne sainte. Et si quelqu'un pose la question, mais comment est-ce que Dieu nous parle? Eh bien, cette lettre nous a déjà donné la réponse. Les premières paroles de cette lettre nous dit, Hébreux 1, 1 et 2, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de dire « Dieu m'a parlé ». Parce qu'on est en train de banaliser en fait la parole de Dieu. Dieu nous a parlé par son Fils. C'est son mot dernier, c'est son mot suprême, c'est son Fils. Et nous le trouvons dans sa parole écrite. Finalement, lettre D, dans l'adoration, nous devons façonner notre culte selon ses désirs et en conformité avec son caractère. Nous trouvons ces deux choses en Hébreux 12, 28 et 29. Est-ce que vous pouvez les regarder? C'est pourquoi, il dit, après avoir parlé du fait qu'on vient devant Dieu, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Notez ceci. Qu'il lui soit agréable. Ça, c'est la première chose. On veut façonner notre culte selon ses désirs. Et puis, en conformité avec son caractère, parce qu'il dit juste après, avec piété et avec crainte. Pourquoi piété et crainte? Car, vous voyez ça le lien? Piété et crainte, le culte marqué de piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et vous dites, c'est bien le Nouveau Testament que je suis en train de lire. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Le chapitre suivant dira que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Et on veut pouvoir dire que nous offrons un culte à Dieu qui, lui, est agréable. Et cela devrait aller en fait de soi, parce que si nous prétendons adorer Dieu, eh bien, On devrait vouloir lui plaire. Mais pourquoi chercherait-on à nous plaire tout en adorant Dieu? Eh bien, parce que depuis Caïn, le fils aîné de Adam et Ève, depuis Caïn, nous avons l'audace de penser que nous pouvons offrir à Dieu ce qui nous plaît à nous-mêmes. Et quand l'Esprit affecte notre conscience ou quand la parole de Dieu vient pour nous réprimander, ça nous fâche. Comme Caïn. Ésaïe 42, verset 8 dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et dans ce passage, Hébreux 12, consacré à la comparaison entre le culte du Nouveau Testament et celui de l'Ancienne Alliance, quelle est la caractéristique de Dieu que le Saint-Esprit l'a sonné dans nos oreilles? C'est la dernière chose qu'il va dire sur l'adoration dans le Nouveau Testament. C'est que notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est la dernière fois, il ne vient pas tout de suite après pour l'expliquer. C'est ça qu'il veut laisser. Il est un feu dévorant, comme avec Moïse, le même Dieu. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous nous approchons dans un lieu très saint. Spirituellement, oui, c'est pas les chaises ici, le mur, le plafond, non. Mais spirituellement, nous sommes devant Dieu, devant les anges. Et ce passage est aussi essentiel à notre culte que 1 Corinthiens 11 et à notre célébration de la table du Seigneur. Imaginez que quelqu'un disait, j'ai jamais entendu ça, mais... Ben moi, je ne suis pas sûr de l'importance d'un Corinthiens 11 pour la table du Seigneur. Après tout, c'est que là, à part les évangiles, qu'on trouve ces instructions, on pourrait penser que si c'était important, on trouverait dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas s'il faut donner beaucoup de poids à 1 Corinthiens 11 pour parler de la table du Seigneur. Mais on dirait, mais combien de fois est-ce que Dieu a besoin de le dire? Et le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance se rassemblait pour adorer devant une montagne embrasée par le feu. Nous, nous nous réunissons en esprit pour adorer un Dieu qui est lui-même. Notez la phrase à la fin. Il est lui-même un feu dévorant. Eux, ils étaient devant une montagne en feu. Nous venons devant le feu lui-même. Il ne dit pas, notez que Dieu est comme un feu dévorant. Ou qu'il est représenté par un feu dévorant, il dit qu'il est, un feu dévorant. Ça fait partie de sa nature. Et dans la Bible, le feu de Dieu fait toujours deux choses. Soit il raffine et purifie, soit il juge et détruit. Les deux choses que font le feu de Dieu. La Bible dit que par le feu, il purifiera les fils de Lévi, mais que par le feu, il jugera éternellement les damnés. Donc, vous ne pouvez pas vraiment venir devant Dieu dans l'adoration et rester tel que vous êtes. C'est impossible. C'est pas que Dieu va vous demander d'ôter vos souliers, mais il va vous demander d'ôter quelque chose de votre vie. Soit vous serez purifié, parce que, pourquoi? Quand on adore Dieu, on vient devant un feu dévorant. Donc, soit ce feu nous purifie, soit nous serons jugés encore plus pour cela. Et donc, la manière de célébrer le culte, la manière même, doit être aussi sainte et distincte que le contenu de notre culte. C'est comme Dieu dit à Moïse, écoutez, ce lieu où je suis, c'est pas pareil qu'ailleurs. Ailleurs, tu peux porter tes chaussures, mais ça, distingue-le d'une manière ou d'une autre. C'est un lieu à part. Le temple, le tabernacle, c'est la même chose. Et ici, nous réunissons, c'est la même chose. Bannissons le monde. Nous sommes ici pour être devant Dieu. Et il ne suffit pas de dire toutes les bonnes choses ou d'accomplir toutes les bonnes actions. Nous devons rendre à Dieu un culte avec piété, avec crainte. C'est notre manière d'adorer qui doit être imprégnée de cette réalité que Dieu est un feu dévorant. Nous n'adorons pas un objet inerte qui reste là pareil. Nous n'adorons pas une personne qui est passive et indifférente. En toute adoration, nous venons devant un feu dévorant. Et toute adoration qui n'est pas offerte d'une manière qui lui soit agréable sera traitée comme telle. Et nous pouvons être sûrs d'une chose, l'Esprit Saint veut que notre culte soit marqué par la piété et la crainte de Dieu. C'est ce qui est dit en noir et blanc ici. Et c'est pourquoi, ici dans cette église, nous ne façonnons pas nos cultes automatiquement pour ressembler à toutes les autres églises, même les autres églises évangéliques. Nous ne sommes pas là pour juger les autres. Honnêtement, on n'est même pas là pour penser à elles activement. Nous essayons de garder nos yeux sur celui qui nous adorons. Nous essayons d'être imprégnés de la réalité dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous venons en esprit pour adorer ce Dieu trois fois saint. Nous voulons nous rappeler qu'en adorant, nous entrons dans des réalités célestes et spirituelles qui nous dépassent de loin, que nous nous présentons devant un feu dévorant qui, dans sa grâce, ne dévore pas celui qui est en Christ. Mais c'est le même Dieu que nous adorons. Et là, il vient en nous en Christ, mais il vient toujours comme un feu dévorant. Prions le Seigneur. Ô grand Dieu, tu es immense et tu es saint. Quelle grâce que cette flamme ardente ne consumait pas le buisson et la terre et Moïse. Et quelle grâce que dans ta sainteté, tu ne nous consumes pas. Mais nous voulons offrir à toi un culte, une adoration qui t'est agréable. Et nous te demandons de nous aider, chacun ici individuellement et en tant qu'assemblée, à être de plus en plus imprégnés par ces réalités célestes et spirituelles. Ce lieu auquel nous nous approchons en esprit lorsque nous venons à Dieu. Que nous puissions faire toutes choses pour ta gloire et pour notre joie. Merci pour Christ, qui est la propitiation de la colère de Dieu. Et c'est à lui que nous venons, et c'est en lui que nous t'approchons, car il est notre temple. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.